Chapitre 4. D'accord. Il est largement temps que je jette un coup d'œil sérieux à ces saletés d'écran. Comment puis-je être dans un autre système solaire? C'est complètement débile. De quelle étoile s'agit-il? Mon Dieu, je vais bel et bien crever. J'hyperventile pendant quelque temps. Je me rappelle ce que j'ai l'habitude de dire à mes élèves. Quand vous n'êtes pas bien, inspirez profondément, expirez lentement et comptez jusqu'à 10. Cela réduit le bazar de façon drastique. J'inspire profondément. 1, 2, 3. Ça ne marche pas. Je vais crever. Je me prends la tête à deux mains. Mon Dieu. Punaise, où suis-je? Je passe en revue les moniteurs à la recherche de quelque chose d'intéressant. Les informations ne manquent pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Heureusement, il y a une étiquette au-dessus de chaque écran. Support vie, état SAS, moteur, robotique, astrophage, générateur, centrifugeuse. Attendez une minute. Astrophage? Je regarde de plus près ce dernier moniteur. Restant 20 906 kg. Consommation 6,045 G sur S. Bien plus intéressant que ces chiffres, le diagramme qu'il surplombe. Il montre ce que je suppose être le dernière chance, que je découvre donc. Le sommet du vaisseau est un cylindre avec un nez conique. Une fusée, en somme. À en juger par sa forme, la salle dans laquelle je suis installé est à l'avant. En dessous, il y a le laboratoire. Labo, lit-on justement sur le diagramme. Plus bas, la pièce dans laquelle je me suis réveillé. Celle où gisent mes chers amis. Je renifle et essuie mes larmes. Comme je n'ai pas le temps pour ça, je me plonge dans l'examen du diagramme. Cette fameuse pièce est marquée dortoir. Le diagramme correspond parfaitement à mes observations. Connaître le véritable nom des choses est intéressant. Sous le dortoir, il y a un espace beaucoup plus petit, mesurant environ 1 mètre de haut et marqué « réserve ». Ah, j'ai dû passer à côté d'un panneau dans le sol. Je note mentalement de ne pas oublier de vérifier. Mais il n'y a pas que cela, bien au contraire. Sous la zone de stockage, il y a une partie marquée « carénage câble ». Aucune idée de ce que c'est. En dessous, le vaisseau s'évase et semble se poursuivre avec 3 cylindres d'un diamètre identique à celui de la cabine dans laquelle je suis installé. Ils sont côte à côte. Mon hypothèse, c'est que le vaisseau a été assemblé dans l'espace et que le diamètre maximal des objets mis en orbite est de 4 mètres. Le trio de cylindres, qui représente, d'après mes estimations, 75% du volume du vaisseau, est marqué carburant. Et il est divisé en 9 sous-cylindres. J'en tapote un par curiosité et j'affiche les données relatives à ce réservoir particulier. Je lis « Astrophage 0,000 kg ». Il y a également un bouton marqué « Largage ». Je ne sais pas ce que je fais là, ni à quoi servent toutes ces choses, mais il est hors de question que je largue quoi que ce soit. Ce n'est sans doute pas aussi dramatique que cela en a l'air. Ce sont des réservoirs de carburant. Si le carburant était brûlé, le vaisseau peut se débarrasser du réservoir concerné, réduire sa masse, et donc faire durer plus longtemps le carburant qui lui reste. Pour la même raison, les fusées qui quittent la Terre se débarrassent progressivement des différents étages qui les constituent. Je note que le vaisseau n'a pas largué automatiquement son réservoir inutile. J'oublie ce détail pour le moment pour m'intéresser au schéma du vaisseau. Sous chacun des gros réservoirs de carburant, il y a une petite zone trapézoïdale marquée « moteur tournant ». Je ne connais pas l'expression, mais vu que les dispositifs se situent à l'arrière du vaisseau et qu'elle comporte le mot « moteur », j'en conclus qu'il s'agit du système de propulsion. Moteur tournant. Moteur tournant. Je ferme les yeux et me concentre sur ces mots. Rien ne se produit. Je ne peux pas faire remonter mes souvenirs à volonté. Je n'en suis pas là. J'examine le diagramme de plus près. Pourquoi y a-t-il 20 000 kg d'astrophages à bord du vaisseau? En fait, je m'en doute. Les astrophages sont le carburant. Et pourquoi pas? L'astrophage se propulse avec de la lumière et possède des capacités de stockage énergétique faramineuses, le fruit de Dieu sait combien de milliards d'années d'évolution. Tout comme un cheval est plus efficace en termes de consommation d'énergie qu'un camion, l'astrophage est plus efficace qu'un vaisseau spatial. D'accord. Cela explique la présence massive d'astrophages dans ce vaisseau. Mais pourquoi afficher un diagramme du navire sur cet écran? Cela reviendrait à coller le plan d'une voiture sur la jauge d'essence. Je remarque que le schéma n'est pas très précis concernant les salles. Il n'indique pas du tout ce qu'elles contiennent, se contentant de les décrire d'un mot. En revanche, le dessin est très précis concernant la coque et l'arrière du vaisseau. Je vois des conduits rouges reliant les réservoirs de carburant au moteur, des durites d'alimentation probablement. Je distingue également des tuyaux sur toute la longueur de l'engin. Ils traversent le carénage câble. J'en conclus que le gros des astrophages est contenu dans les réservoirs, mais qu'il y en a également tout autour de la coque, dans un genre de coquille. Pourquoi? Oh, et il y a des mesures de température partout. Elles doivent être très importantes, car elles sont mesurées tous les quelques mètres. Et je lis partout 96,415 degrés. Je connais cette température. Je suis sûr de la connaître, mais d'où? Allez, cerveau, mets-toi en route. 96,415 degrés, disait l'affichage. Ah, fis-je.
Qu'est-ce qu'il y a?
Demanda aussitôt Strat. C'était mon deuxième jour au laboratoire. Strat insistait pour que j'examine les astrophages seul, pour le moment. Elle posa sa tablette et se leva, s'avançant jusqu'à la vitre de la salle d'observation.
Du nouveau?
Plus ou moins. La température ambiante d'un astrophage est de 96,415 degrés Celsius.
C'est beaucoup, non?
Ouais, c'est presque la température d'ébullition de l'eau. Une température mortelle pour toute créature terrestre, mais pour une bestiole qui s'accommode de la proximité du soleil, qui sait?
Et qu'est-ce qui vous étonne particulièrement?
Je ne peux ni les refroidir ni les réchauffer, expliquai-je en désignant l'expérience que j'avais installée dans la hotte. J'ai plongé des astrophages dans de l'eau glacée pendant une heure. Quand je les ai ressortis, leur température était de 96,415 degrés Celsius. Et puis j'en ai mis dans un four chauffé à 1000 degrés. Une fois encore, leur température est restée à 96,415 degrés.
Peut-être dispose-t-il d'une excellente isolation?
Proposa Strat en faisant les 100 pas devant la vitre. J'y ai pensé, donc j'ai fait une nouvelle expérience. J'ai pris une toute petite goutte d'eau et j'ai mis des astrophages dedans. Au bout de quelques heures, la température de la goutte tout entière était de 96,415 degrés. Les astrophages ont réchauffé l'eau, ce qui démontre que la chaleur peut s'en échapper.
Qu'en concluez-vous?
Je voulus me gratter la tête, mais le vinyle de la combinaison m'en empêcha. Eh bien, nous savons qu'il stocke une très grande quantité d'énergie. Il est possible qu'ils l'utilisent pour maintenir leur température corporelle, un peu comme vous et moi.
Un micro-organisme à sang chaud?
Ça y ressemble, acquiesçai-je en haussant les épaules. Hé, combien de temps encore vais-je bosser seul sur la question?
Ce ne sera plus le cas lorsque vous cesserez de découvrir des choses.
Un type tout seul dans un labo? La science ne fonctionne pas comme ça. Des centaines de chercheurs aux quatre coins du monde devraient être en train de bosser sur ce truc.
Vous n'êtes pas seul à le penser. Trois chefs d'État m'ont appelé aujourd'hui pour me le faire remarquer.
Alors mettez d'autres scientifiques sur le coup.
Non.
Pourquoi? Elle détourna les yeux pendant un instant, puis elle me fit face.
L'astrophage est un microbe extraterrestre. Et s'il pouvait infecter les hommes? S'il était mortel? Si la combinaison hazmat et les gants en néoprène ne suffisaient pas?
Attendez une minute, protestai-je bouche bée. Je suis un cobaye? Je suis un cobaye?
Non, ce n'est pas ça du tout.
Je la regardai fixement. Elle soutint mon regard. J'insistais.
« Bon, d'accord, c'est exactement ça, »
me concéda-t-elle. Flûte, c'est vraiment pas sympa.
Ne soyez pas théâtral. Je prends des précautions, c'est tout. Imaginez que j'envoie l'astrophage aux esprits les plus brillants de la planète et qu'ils en meurent tous. Nous perdrions d'un seul coup les gens dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. C'est un risque que je ne puis prendre.
Nous ne sommes pas dans un film de série B, Strat, grondai-je en fronçant les sourcils. Les pathogènes évoluent lentement au fil du temps en s'adaptant à des hôtes spécifiques. L'astrophage ne connaît pas du tout la Terre. Je ne vois vraiment pas comment il pourrait infecter un humain. Par ailleurs, ça fait 2 jours maintenant, et je ne suis pas mort. Alors envoyez-en à de vrais chercheurs.
Vous êtes un vrai chercheur, et vos progrès sont aussi rapides que possible. Dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi je risquerais d'autres vies.
Vous rigolez. 200 esprits travaillant dans la même direction auraient été bien plus...
Par ailleurs, la plupart des maladies mortelles ont une période d'incubation de 3 jours.
Ah ! J'en étais sûr. Elle retourna à la table et reprit sa tablette.
Le reste du monde aura sa chance, mais pour le moment, il n'y a que vous. Dites-moi de quoi sont faites ces choses, et nous passerons peut-être la main.
Elle se replongea dans sa lecture. La conversation était terminée. Comme diraient mes élèves, elle m'avait cassé. Car malgré tous mes efforts, je n'avais aucune idée de la nature du matériau dont étaient constitués les astrophages. Ils restaient opaques sur toutes les longueurs d'onde. Lumière visible, infrarouge, ultraviolet, rayon X, micro-ondes. Je mis même quelques astrophages dans un caisson de confinement que je soumis aux rayons gamma émis par du césium-137. Quand je vous disais qu'il y avait tout dans ce labo. C'était le test Bruce Banner. J'étais content d'avoir trouvé ce nom. Bref, même les rayons gamma ne pouvaient pas les traverser. Un peu comme si on tirait avec un calibre 50 sur une feuille de papier et que le projectile rebondisse. C'était insensé. Je replongeais dans mon microscope. Les petits points noirs étaient accrochés à ma lame depuis des heures. C'était mon échantillon de contrôle, celui que je n'avais pas bombardé de lumière. Peut-être que je réfléchis trop. Je fouillais dans les fournitures et trouvais ce dont j'avais besoin, des nanoseringues. Elles étaient rares et chères, mais ce labo en avait. Pour faire simple, il s'agissait d'aiguilles très, très fines. Assez fines et pointues pour pénétrer des micro-organismes. Avec ces trucs, on pouvait extraire une mitochondrie d'une cellule vivante. De retour devant le microscope. « D'accord, petit dépravé. Vous ne craignez pas les radiations? Et si je vous plantais en pleine face ?» Normalement, on contrôle une nanoseringue via un équipement extrêmement précis, mais je voulais simplement piquer sans me soucier de l'intégrité de l'outil. J'attrapais la pince, où l'on montait normalement les machines de contrôle, et poussais l'aiguille sous la lentille. On parle de nanoseringue, mais elle mesure environ 50 nanomètres de largeur. L'aiguille était donc minuscule comparée aux 10 microns de l'astrophage, un demi-millième de son diamètre. J'enfonçais l'aiguille dans un astrophage, et ce qui se produisit ensuite fut tout à fait inattendu. D'abord, la pointe pénétra la chose, aucun doute là-dessus. Malgré sa résistance à la lumière et aux radiations, l'astrophage n'était pas plus fier que n'importe quelle cellule face à une aiguille. Dès que je la perçais, la cellule tout entière devint translucide. Oubliez le point noir uniforme. J'avais sous les yeux une cellule avec des organites et tout ce qu'un microbiologiste comme moi voulait voir. Et c'était venu d'un seul coup, comme si on venait d'allumer une lampe. Et puis l'astrophage mourut. La cellule rompue laissa échapper son âme et ce défi. D'objet rond et cohérent, elle devint lentement une flaque informe sans limite extérieure. J'attrapai une aiguille normale sur une étagère toute proche et aspirai la bouillie. Yes ! J'en ai tué un !
Tant mieux pour vous !
Commenta Strat sans lâcher sa tablette des yeux.
Le premier humain à avoir tué un extraterrestre. Comme Arnold Schwarzenegger dans Predator.
Ha 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 ! Très drôle ! En plus, le prédateur meurt dans une explosion qu'il déclenche lui-même. Le premier humain à vraiment tuer un prédateur est Michael Harrigan, joué par Danny Glover dans Predator 2. Elle me regarda fixement pendant quelques secondes, puis secoua la tête et leva les yeux au ciel. Grâce à ça, je vais pouvoir déterminer de quoi est constituée cette bestiole.
Vraiment ?
S'étonna-t-elle en posant sa tablette.
Et tout ça en la tuant ?
Je crois bien. Il n'est plus noir, la lumière le traverse. L'effet bizarre qui l'a bloqué n'est plus.
Comment avez-vous fait ? Qu'est-ce qui l'a tué ?
J'ai pénétré la membrane de la cellule avec une nanoseringue.
Vous l'avez trituré avec un bâton ?
Non. Enfin si. Mais je l'ai trituré scientifiquement avec un bâton scientifique.
Il vous a fallu 2 jours pour avoir l'idée de le triturer.
Hé, faites attention à ce que vous dites. J'amenai l'aiguille jusqu'au spectroscope et éjectai la bouillie sur la plateforme, puis je scellai la chambre et lançai l'analyse. En attendant le résultat, je basculai nerveusement mon poids d'un pied sur l'autre, comme un gamin agité.
« Qu'est-ce que vous faites ?»
m'interrogea Strat en essayant de voir par-dessus mon épaule. « C'est un spectroscope à émission atomique. Je vous en ai déjà parlé. Ça envoie des rayons X dans un échantillon pour exciter les atomes et mesurer la longueur d'onde de ce qui revient. Il était totalement inefficace sur un astrophage vivant, mais maintenant que ce qui bloquait la lumière n'est plus là, ça devrait fonctionner. » La machine bipa. « Ça y est, il est temps de découvrir quels éléments chimiques on trouve dans une forme de vie qui n'utilise pas d'eau. » Je regardais l'écran LCD. Il affichait des pics et les éléments qu'il représentait. Je scrutais les résultats en silence.
« Alors ?»
demanda Strat.
« Alors ?»«
Il y a du carbone et de l'azote, mais il y a surtout de l'hydrogène et de l'oxygène. » Je poussai un soupir et m'affaissai sur une chaise à côté de la machine. « Il y a 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène. »«
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ?»«
C'est de l'eau. L'astrophage est principalement constitué d'eau. » La mâchoire inférieure de Strat se décrocha.
« Mais comment ? Comment une chose qui existe à la surface du Soleil peut-elle contenir de l'eau ?»«
Sans doute l'astrophage maintient-il sa température interne à 96,415 degrés Celsius, quelles que soient les conditions extérieures, » répondis-je en haussant les épaules.
« Qu'en concluez-vous ? »
« J'en conclus que tous les articles que j'ai écrits sont un ramassis de bêtises, » lâchai-je en me prenant la tête à 2 mains. Ah, ça fait mal. De toute façon, je n'étais pas heureux dans ce laboratoire. J'imagine qu'ils ont fait appel à des gens plus malins que moi, vu que je suis dans un autre système solaire, à bord d'un vaisseau fonctionnant grâce aux astrophages. Mais pourquoi moi ? Après tout, je m'étais trompé toute ma vie. Je me rappellerai la suite plus tard, je suppose. Pour le moment, j'aimerais savoir de quelle étoile il s'agit. Et pourquoi nous avons construit un vaisseau pour y envoyer des gens. Des choses très importantes, en somme. Sauf que je n'ai pas fini d'explorer le vaisseau. La réserve. Peut-être y trouverai-je autre chose qu'une toche de fortune à revêtir. Je descends dans le laboratoire, puis dans le dortoir. Mes amis sont toujours là. Toujours mort. J'essaie de ne pas les regarder. J'examine le sol à la recherche d'une trappe. Rien. Je me mets à 4 pattes et me balade un peu partout. Enfin, je le trouve. Un carré à peine perceptible sous la couche de mon camarade décédé. La plaque est tellement bien ajustée que je n'arrive même pas à y glisser un ongle. Il y a plein d'outils dans le labo. Je suis sûr que j'y trouverai un tournevis plat dont je me servirai comme levier. À moins que... Hé, ordinateur, ouvre-moi ce panneau d'accès.
Précisez panneau à ouvrir.
Ça, réponds-je en montrant la trappe du doigt. Ce truc, ouvre-le.
Spécifiez panneau à ouvrir.
Ouvre la trappe de la réserve.
Ouverture réserve, dit l'ordinateur.
Il y a un clic, et le panneau se soulève de quelques centimètres, arrachant un joint invisible jusque-là, tant l'ajustement était parfait. Je me satisfais de ne pas avoir eu à forcer l'ouverture, ça aurait été un calvaire. Je retire ce qui reste du joint, et le panneau se détache. Je le secoue un peu dans tous les sens, avant de comprendre qu'il faut le lever à 90 degrés avant de le retirer complètement. Je plonge la tête dans l'ouverture, et avise des cubes blancs et souples. Logique. On peut mettre plus de choses dans des boîtes souples et on peut en empiler davantage. Comme c'était indiqué sur le diagramme, la réserve mesure environ 1 mètre de haut, et elle est pleine à craquer. Il me faudrait enlever quelques-unes de ces boîtes blanches si je voulais entrer là-dedans. Enfin, je vais bien devoir y aller, mais j'avoue que je me sens claustrophobe rien que d'y penser. On dirait un peu un vide sanitaire sous une maison. J'attrape le paquet le plus proche et l'extrais par l'ouverture. La boîte est fermée par des bandes velcro. Je tire de tous les côtés et la caisse se déplie comme une boîte de Happy Meal. À l'intérieur, je trouve des uniformes. Jackpot! Ce n'était pas réellement une coïncidence, cependant. Ceux qui ont empli cette réserve n'ont pas fait les choses au hasard. Ils savaient que ceux d'entre nous qui se réveilleraient voudraient s'habiller. Les vêtements sont donc dans le premier paquet, dans des sachets sous vide. J'en ouvre un au hasard. C'est une combinaison bleu ciel. Des habits d'astronaute. Le tissu est fin, mais paraît confortable. Sur l'épaule gauche, il arbore le patch de la mission Dernière Chance. Je reconnais le dessin vu plus tôt dans la salle de contrôle. En dessous, il y a un drapeau chinois. Sur l'épaule droite, je découvre le triangle bleu entouré d'épis de la CNSA, l'Administration Spatiale Nationale Chinoise. Sur la poitrine, à gauche, un nom en chinois. Ce caractère, je l'ai vu sur l'emblème de la mission dans la salle de contrôle. Il se prononce Yao. Comment je peux le savoir? Je le sais, c'est tout. Le commandant Yao, c'était le chef de la mission. Je me rappelle son visage maintenant. Jeune et ciselé, le regard déterminé. Il comprenait les enjeux de la mission, il savait le poids qui pesait sur ses épaules. Il était prêt. Il était sévère, mais raisonnable. Et on savait, on n'en doutait pas une seconde, qu'il était prêt à donner sa vie pour sa mission ou son équipage. Je sors un autre uniforme. Il est bien plus petit que celui du commandant. Le patch de la mission est le même, mais le drapeau est celui de la Russie. L'épaule droite est ornée du chevron incliné rouge, ceint d'un anneau de Roscosmos, l'agence spatiale russe. Le nom sur la poitrine est écrit en russe, comme sur le symbole de la mission. C'était l'uniforme d'Ilyukina. Olesya Ilyukina. Elle était tellement drôle. Elle était capable, 30 secondes après avoir fait votre connaissance, de vous faire éclater de rire. Sa jovialité était naturelle et contagieuse. Si Yao était un modèle de sérieux, Ilyukina était la décontraction même. S'il s'engueulait de temps en temps, même Yao ne pouvait résister à ses charmes. Je me rappelle le jour où son vernis a craqué pour la première fois et où il a ri à une de ses blagues. On ne peut pas être sérieux à 100% tout le temps. Je me relève pour regarder les corps. Le commandant sévère et l'ami jovial ne sont plus. Je ne vois que des coquilles vides qui autrefois contenaient une âme et dont on a peine à imaginer qu'elles ont été humaines. Ils méritent mieux que cela. Ils méritent des funérailles. La boîte contient plusieurs uniformes pour chaque membre d'équipage. Je finis par trouver les miens. Ils sont exactement comme je les imaginais. Le patch de la mission Dernière Chance, le drapeau américain en dessous, le logo de la NASA sur l'épaule droite, mon nom sur la poitrine. Grace. J'enfile ma combinaison. Je fouille encore un peu et je trouve des chaussures. Enfin, ce ne sont pas vraiment des chaussures, plutôt des chaussettes épaisses avec des semelles en caoutchouc. Des chaussons améliorés. J'imagine que nous n'avions pas besoin d'autre chose. Je m'en contenterai donc. J'entreprends alors une tâche sinistre. Habiller mes camarades défunts. Les combinaisons semblent tellement grandes à côté de leurs corps desséchés. Je leur mets même des chaussons. Et pourquoi pas? Ce sont nos uniformes. Et un voyageur mérite d'être inhumé en uniforme. Je commence par Ilyukina. Elle ne pèse presque rien. Je la porte sur mon épaule en grimpant dans la salle de contrôle. Là, je la pose sur le sol et j'ouvre le sas. Je sors la combinaison spatiale qui y prend presque toute la place, pièce par pièce, et je la mets sur le fauteuil du pilote, avant d'introduire Olesya à l'intérieur. Le panneau de contrôle du sas est facile à comprendre et permet de décider de la pression de l'air dans le sas et de l'ouverture de la porte extérieure. Il y a même un bouton largage. Je ferme la porte et active ce dernier processus. Cela commence par une alarme et des lumières clignotantes à l'intérieur du sas. Suit un compte à rebours vocal. À l'intérieur du sas, il y a trois boutons, avortés, lumineux. Quiconque se retrouverait par mégarde dans le sas à l'occasion d'un largage pourrait ressortir sans difficulté. Une fois le compte à rebours terminé, la pression à l'intérieur du sas tombe à 1/10 d'atmosphère, d'après l'affichage. Et puis la porte extérieure s'ouvre et Olesia disparaît avec un whoosh. Le vaisseau accélérant constamment, le corps n'est plus là en un clin d'œil. « Olesia Ilyukina, dis-je. Je ne me rappelle pas sa religion. Je ne sais même pas si elle était croyante, ni ce qu'elle aurait aimé que je dise. Au moins, je me souviens de son nom. Je confie ton corps aux étoiles. Cela me semble approprié. C'est un peu cucu, mais je me sens mieux quand même. Après cela, je descends chercher le commandant Yao. Je le dépose dans le sas, je referme la porte et j'appuie sur le bouton largage. Yao Li Jie, dis-je. Son nom m'est revenu comme ça. Je confie ton corps aux étoiles. Les pressions s'égalisent et je me retrouve seul. J'étais seul depuis le début, mais là je le suis réellement. Le seul être humain à plusieurs années-lumière à la ronde, au moins. Que dois-je faire maintenant?
Contente de vous revoir, Monsieur Grace,
lança Teresa. Les enfants étaient tous assis derrière leur pupitre, prêts à assister à leur cours de science. Merci, Teresa.
Votre remplaçant était tellement ennuyeux,
gémit Michael. Heureusement, je ne le suis jamais, enchéris-je en allant chercher 4 corbeilles en plastique dans un coin. Aujourd'hui, nous allons examiner des cailloux. Bon, j'admets que ce sera peut-être un peu ennuyeux. Les enfants gloussèrent. Vous allez former 4 groupes et chaque groupe prendra une corbeille. Il s'agira de trier les roches ignées, sédimentaires et métamorphiques. La première équipe qui termine, et n'a pas commis d'erreur, gagnera des balles à grains.
On peut constituer nos équipes nous-mêmes ?
S'enthousiasma Trang. Non, c'est toujours l'occasion de dispute. Parce que les enfants sont des animaux. D'horribles animaux. Tout le monde rit. Les équipes seront constituées alphabétiquement. La première...
Monsieur Grace, je peux poser une question ?
M'interrompit Abby en levant la main. Bien sûr.
Qu'est-ce qui arrive au soleil ?
Toute la classe devint subitement plus attentive.
Mon père dit que ce n'est pas très grave,
intervint Michael.
« Le mien dit que c'est un complot du gouvernement, »
dit Tamora. « D'accord. » Je posai les corbeilles et m'assis sur mon bureau. « Bon, vous savez qu'il y a des algues dans les océans. »« Eh bien, un genre d'algues de l'espace pousse sur le soleil. »«
Les astrophages ?»
proposa Harrison. Je faillis glisser du bureau.
« Où as-tu entendu ce mot ?» C'est comme ça qu'ils appellent ces trucs maintenant. J'ai entendu le président le dire hier soir.
Je m'étais tellement isolé dans le laboratoire que je n'avais même pas entendu parler de ce discours. Saperlipopette. J'avais forgé ce mot pour Strat la veille. Il avait suffi de ce laps de temps pour que le mot passe de Strat au président, puis aux médias.
Waouh !
Oui, c'est bien ça. Il pousse sur le soleil, ou juste à côté. Nous n'en sommes pas encore sûrs.
C'est quoi le problème, alors ?
Reprit Michael.
Les algues des océans ne nous font pas de mal. Pourquoi ce serait différent avec les algues du soleil ?
Excellente question, l'encourageai-je en le désignant de l'index. Le problème, c'est que les astrophages commencent à absorber une quantité non négligeable de l'énergie du soleil. Pas vraiment beaucoup, un petit pourcentage. Mais ça veut dire que la Terre reçoit un peu moins de lumière, ce qui peut devenir vraiment embêtant.
« Il va faire un peu plus frais, alors, »
conclut Abby.
« On va perdre 1 ou 2 degrés. Qu'est-ce que ça peut faire ?»«
Vous avez tous entendu parler du changement climatique. Nos émissions de CO2 ont causé de nombreux problèmes à l'environnement.
« Mon père dit que c'est pas vrai, »
déclara Tamora.
« Eh bien, si. Bref, on a tout un tas de problèmes à cause de ce changement climatique. Et tout ça parce que la température moyenne a augmenté d'un degré et demi. C'est tout. Un degré et demi.
« Combien on va perdre à cause des astrophages ?»
m'interrogea Luther.
Je me levais et arpentais lentement la classe devant les élèves. « Nous ne le savons pas. Mais si les astrophages se multiplient au même rythme que les algues, les climatologues pensent que la température pourrait baisser de 10 à 15 degrés.
Et qu'est-ce qui arrivera alors ?
S'enquit Luther.
Ce sera mauvais. Très mauvais. Beaucoup d'animaux, des espèces entières, mourront parce que leur habitat sera devenu trop froid. Les océans vont se refroidir aussi, ce qui pourrait provoquer un effondrement de la chaîne alimentaire. Même les animaux capables de supporter des températures basses mourraient, parce que leur proie ne survivrait pas.
Les enfants me regardaient avec des yeux ronds, abasourdis. Pourquoi leurs parents ne leur avaient-ils rien expliqué?
Sans doute parce qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Si on m'avait donné une pièce, chaque fois que j'ai eu envie de gifler un père ou une mère d'élève qui n'avait pas expliqué un truc de base à son gamin, eh bien, j'aurais assez de pièces pour remplir une chaussette et taper les parents avec.
« Les animaux vont mourir aussi ?»
demanda Abby horrifié.
Abby faisait de l'équitation dans un club et passait tout son temps libre dans l'élevage laitier de son grand-père. La souffrance humaine est souvent une notion abstraite pour les enfants. La souffrance animale, en revanche...
Oui.
Je suis désolé, mais beaucoup d'animaux vont mourir. Mais ce n'est pas tout. Les cultures ne survivront pas. La nourriture deviendra rare. Lorsque quelque chose comme ça se produit, l'ordre social...
Je m'arrêtais là. Je parlais à des gosses. Pourquoi étais-je allé si loin ?
Combien ?
Commença Abby. Je la voyais chercher ces mots pour la première fois.
Dans combien de temps ça va arriver ?
Les climatologues pensent que ça se produira dans les 30 prochaines années.
Les enfants se détendirent d'un seul coup.
30 ans ?
Répéta Trang.
C'est dans super longtemps.
Ce n'est pas tant que cela.
Pour des gamins de 12 ou 13 ans, 3 décennies équivalaient à 1 million d'années.
Je peux être dans l'équipe de Tracy ?
Demanda Michael. 30 ans. J'examinais leur petit visage. Dans 30 ans, ils auraient la quarantaine, et ils paieraient les frais de tout cela. Ce ne serait pas facile. Ces mômes grandissaient dans un monde idyllique et seraient plongés dans un cauchemar apocalyptique. Ils étaient la génération qui vivrait la 6e extinction. Mon ventre se noua. J'avais la charge d'une classe pleine d'enfants, des enfants heureux, et pourtant certains d'entre eux risquaient de mourir littéralement de faim.
« Je... » bafouillai-je.
« Je dois aller faire quelque chose. Laissez tomber les cailloux. »
« Hein ?»
protesta Luther.
« Faites comme si vous étiez en étude. Vous avez des devoirs, non ? Restez à vos places et travaillez en silence jusqu'à ce que la cloche sonne. »
Je quittai la classe sans un mot de plus. Je tremblais tellement que je faillis m'écrouler dans le couloir. Je m'arrêtai à la fontaine la plus proche et m'aspergeai le visage. Je pris une profonde inspiration, recouvrai mon self-control et trottai vers le parking. Je conduisis vite, bien trop vite. Je grillais des feux rouges, des priorités. Normalement, je ne fais rien de tout cela, mais ce jour était différent des autres. Ce jour... je ne sais pas. Je me garais dans le parking du laboratoire en faisant crisser mes pneus. Et de travers. 2 soldats de l'US Army étaient postés devant l'entrée de l'immeuble. C'était le cas depuis que je travaillais là, depuis 2 jours. Je passais entre eux sans les regarder.
« Aurions-nous dû l'empêcher d'entrer ?» demanda l'un d'entre eux.
Je ne m'arrêtai pas pour écouter la réponse. J'entrai à grands pas dans la salle d'observation. Strat était là, évidemment, qui lisait sur sa tablette. Elle releva la tête, et pendant un instant, je lus une surprise sincère dans son regard.
« Dr. Grace, qu'est-ce que vous faites ici ?»
Derrière elle, à travers la vitre,
Je voyais quatre personnes en combinaison de protection s'affairer dans le labo.
« Qui sont-ils ? » l'interrogeai-je en désignant les personnages. « Et que font-ils dans mon labo ? »
« Je ne suis pas certaine d'apprécier votre ton. »
« Je m'en fous. »
« Ce n'est pas votre labo, mais le mien. Ces techniciens sont en train de collecter les astrophages. »«
Qu'est-ce que vous allez en faire ?»«
Votre rêve est sur le point de se réaliser, » dit-elle en coinçant sa tablette sous son bras. « J'envoie des échantillons à 30 laboratoires différents aux quatre coins du monde, du CERN au service d'armement bactériologique de la CIA. »
Parce que la CIA a un... Peu importe. J'aimerais travailler encore un peu dessus.
Vous avez fait votre part, me rétorqua-t-elle en secouant la tête. Nous pensions à une forme de vie anhydre, nous avions tort. Vous l'avez prouvé d'ailleurs. Et vu qu'aucun alien n'est sorti de votre poitrine, votre face cobaye est terminée. Vous avez joué votre rôle, mais c'est fini.
Non, ce n'est pas fini. Il reste beaucoup de choses à découvrir.
« Bien sûr. 30 laboratoires attendent avec impatience de travailler sur le sujet. »«
Laissez-en quelques-uns ici, » insistai-je en faisant un pas vers elle. « Permettez-moi de les étudier encore un peu. »«
Non, »
répondit-elle en faisant elle aussi un pas en avant.
« Pourquoi ?»« D'après vos notes, il y avait 174 astrophages vivants dans notre échantillon. Comme vous en avez tué un hier, nous n'en avons plus que 173. » Chacun de ces laboratoires, de grandes structures nationales, recevra 5 ou 6 cellules, pas plus. Il y a pénurie, voyez-vous. Ces cellules sont les 173 choses les plus importantes de notre planète. De leur analyse dépendra la survie de l'humanité.
Mais je vous comprends, reprit-elle d'une voix plus douce.
Vous avez passé votre vie à tenter de démontrer que la vie n'avait pas besoin d'eau. De manière tout à fait inattendue, vous recevez des échantillons prometteurs qui, au bout du compte, se révèlent aussi dépendants de l'eau que toute autre forme de vie. C'est dur à vivre, mais il vous faut oublier et retourner à votre vie. À partir de maintenant, je prends tout en main.
Je n'en reste pas moins un microbiologiste spécialisé dans les modèles théoriques de vie extraterrestre. Je suis une ressource utile. J'ai des compétences quasi inégalées.
Docteur Grace, il est hors de question de vous laisser des cellules pour vous aider à soulager votre égo meurtri.
Mon égo ? Je me fous de mon égo ! Je pense à mes enfants.
Vous n'en avez pas ?
Bien au contraire, j'en ai des dizaines. Je les vois en classe tous les jours, et ils vont tous finir dans un monde de cauchemars à la Mad Max si nous ne faisons pas quelque chose. Oui, je me suis trompé pour l'eau, mais je m'en fous. Ce qui compte, ce sont les gosses. Laissez-moi quelques-unes de ces punaises d'astrophages.
Elle recula un peu et fit la moue. Elle baissa la tête et s'abîma dans ses pensées. Et puis elle plongea son regard dans le mien. « 3. Je vous en laisse 3. »«
D'accord, » acquiesçai-je en desserrant les poings. J'inspirai profondément. Je ne m'étais pas rendu compte que j'étais à ce point tendu. « 3. Je me débrouillerai avec ça. »«
Je laisse ce laboratoire ouvert, » dit-elle en pianotant sur sa tablette. Il est à vous. Revenez dans quelques heures, mes gars auront terminé leur travail.
Mais j'étais déjà en train de revêtir une combinaison hazmat. Je m'y remets tout de suite. Dites à vos hommes de pas se mettre en travers de ma route.
Elle me lança un regard noir, mais ne fit pas de commentaire.
Je me dois de le faire pour mes enfants. Enfin, ce ne sont pas réellement mes enfants, mais ce sont mes enfants quand même.
Je regarde les écrans alignés devant moi. J'ai besoin de réfléchir. Ma mémoire est parcellaire, fiable mais incomplète. Que pourrais-je faire au lieu d'attendre passivement une éventuelle révélation? La Terre est dans le pétrin. Le Soleil est infesté d'astrophages. Je suis dans un vaisseau spatial dans un autre système solaire. La construction de ce navire n'a certainement pas été une mince affaire et son équipage était international. Nous parlons quand même d'un voyage interstellaire, d'un truc impossible avec notre technologie. L'humanité s'est donc énormément investie dans cette mission, dont la mise en œuvre a sans doute été rendue possible par les astrophages. Il n'y a qu'une explication. La solution au problème posé par les astrophages est ici. Une solution potentielle, en tout cas. Quelque chose d'assez prometteur pour qu'on se soit donné tous mal. J'examine les moniteurs de plus près. La plupart affichent le genre de données qu'on s'attend effectivement à trouver dans un vaisseau spatial. Le support vie, la navigation, ce genre de trucs. Au-dessus d'un écran, je lis « Scarabée ». Au-dessus du suivant, attendez, « Scarabée ». Je ne vois pas le rapport avec notre problème, mais j'ai envie de vérifier s'il y a effectivement des scarabées dans ce navire. Et puis, vous avez envie de le savoir, non ? L'écran est divisé en quatre cadrans montrant plus ou moins la même chose. Un petit schéma accompagné d'un texte. Les schémas représentent un objet bulbeux et oblong avec un sommet pointu et un genre de trapèze à l'arrière. À condition de pencher la tête sur le côté et de plisser les yeux, il peut ressembler à un scarabée. Je note que chacun des scarabées a un nom. John, Paul, George et Ringo. D'accord, j'ai compris. Cela ne me fait pas rire, mais j'ai compris. Je choisis arbitrairement un scarabée, John, que j'étudie de près. John n'est pas un insecte. Je suis quasi certain qu'il s'agit d'un vaisseau. Le trapèze à l'arrière est désigné par l'expression « moteur tournant », tandis que la partie bulbeuse est marquée « carburant ». Au-dessus de la petite tête, je lis « ordinateur » et « radio ». Je regarde d'un peu plus près. L'infoboîte du carburant précise « astrophage 120 kg »,« temp 96,415 degrés ». Celle de l'ordinateur, dernière vérification mémoire il y a 3 jours. 5 teraoctets. Fonctionnement normal. Quant à la radio, elle dit simplement « état 100%. » C'est une sonde automatisée. De taille modeste, j'imagine. La totalité du carburant pèse 120 kg. Ce n'est pas beaucoup. Il faut dire que les astrophages ont un excellent rendement. Je ne vois aucun instrument scientifique. À quoi bon envoyer une sonde non habitée sans aucun instrument à l'intérieur ? Attendez. Et si les 5 teraoctets de données étaient la raison d'être de cette sonde ? Soudain, c'est la prise de conscience. Oh punaise ! Je suis dans l'espace. Je suis dans un autre système solaire. J'ignore combien d'astrophages il a fallu pour m'amener jusqu'ici. Beaucoup, sans doute. Il faut une quantité astronomique de carburant pour envoyer un engin spatial dans un autre système solaire. Pour le ramener à la maison, il en faudrait 10 fois plus. Je jette un coup d'œil au moniteur dédié aux astrophages pour me rafraîchir la mémoire. Restant, 20 862 kg. Consommation, 6,043 grammes par seconde. La consommation était de 6,045 grammes par seconde un peu plus tôt. Elle a donc baissé un peu. La jauge a baissé aussi, évidemment. À mesure que le carburant est consommé, la masse totale du vaisseau baisse, ce qui signifie qu'il faut moins de carburant pour maintenir une accélération constante. D'accord, tout cela se tient. Je n'ai aucune idée de la masse du dernier chance, mais générer une accélération de 1,5 g en ne consommant que quelques grammes d'astrophage par seconde, l'astrophage est réellement un carburant extraordinaire. Quoi qu'il en soit, j'ignore comment la consommation va évoluer dans le temps. Enfin, je pourrais le calculer, mais c'est compliqué. Je me contenterai de l'arrondir à 6 grammes par seconde. Combien de temps mes réserves dureront-elles ? J'apprécie d'être vêtu d'une combinaison. Il y a des poches partout. Je n'ai toujours pas trouvé de calculatrice, cependant, aussi me contentais-je de faire mes calculs au stylo sur une feuille de papier. Résultat, je serai en rade de carburant dans une 40aine de jours. Je ne sais pas quelle étoile j'ai devant moi, mais ce n'est pas le soleil. Et au vu de mon 1,5 g d'accélération, je suis conscient de n'avoir aucune chance de regagner la Terre depuis une étoile environnante en seulement 40 jours. Il m'a probablement fallu des années pour arriver jusqu'ici, d'où le coma probablement. Intéressant. Bref, tout cela ne peut signifier qu'une chose, le dernier chance ne fera pas le voyage du retour. Je n'ai qu'un aller simple dans la poche. Et je suis à peu près certain que ces scarabées sont mon moyen d'envoyer des informations à la Terre. Il est impossible que je dispose d'une radio assez puissante pour émettre à plusieurs années-lumière. Je ne suis même pas certain qu'il soit possible de fabriquer un truc pareil. Voilà pourquoi je dispose de ces quatre petits scarabées contenant chacun 5 téraoctets de données. Eux feront le voyage de retour en émettant vers la Terre. Il y en a 4 pour des raisons de sécurité, de redondance. Je suis probablement censé enregistrer mes découvertes dans chacun d'entre eux avant de les renvoyer à la maison. Si au moins un d'entre eux survit, la Terre sera sauvée. Peut-être. C'est une mission suicide. John, Paul, George et Ringo rentreront à la maison, tandis que ma longue et sinueuse route s'arrêtera ici. Je savais tout cela lorsque je me suis porté volontaire. Pour mon cerveau amnésique, cependant, c'est une information nouvelle. Je vais mourir ici. Et je vais mourir seul.